Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 5 mars 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, surtout hier. Est-ce que tu peux nous dire depuis la semaine passée comment ça s'est passé sur la bourse et aussi pour le mois de février?
Ben ça brasse un peu, hein. On s'entend. Les tarifs qui avaient été reportés d'un mois sont officiellement rentrés en vigueur. Donc la bourse n'a pas apprécié jusqu'à la dernière minute. Il y a quand même certain espoir là, que ce soit reporté ou que ce soit des tarifs moins élevés là, que le 25%. Mais non, c'est en vigueur. 25% pour le Canada et le Mexique, 20% pour la Chine. L'énergie est à 10% de tarifs. Le marché n'a pas du tout apprécié la nouvelle, là, tant du côté américain que canadien. Ce qui fait que sur la semaine, donc depuis mercredi passé, le TSX est en baisse de 2,5%. Essentiellement, c'est 2,5% depuis lundi. Là. C'est lundi et mardi que ça l'a baissé. Le S&P 500 en baisse de 3%. Le Nasdaq, avec les titres un peu plus technologiques, à 3,9% de baisse. Le Nasdaq, mine de rien, là, est en baisse de 5,3% année à jour. Donc, c'est quand même des baisses assez prononcées, moins 1,8 pour le S&P 500, moins 0,7 pour le TSX. Donc, notre TSX, malgré une légère baisse là, depuis le début de l'année, fait quand même bonne figure par rapport au marché américain. On a sorti aussi les performances. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, là, parce que depuis 10 ans, le marché américain performe à plein régime. L'Europe, c'est un petit peu plus moribond. On a la guerre, on a toutes sortes de contraintes là, de croissance. Puis là, ben, je regardais là, tranquillement notre feuille de statistiques, les performances au 28 février. Ben, le FTSE à Londres en hausse de 8,3%, le CAC 40 en France en hausse de 10% année à jour. Le DAX en Allemagne 13,2%, Eurostock 50 là, qui contient les 50 plus grandes entreprises en Europe 12%, Hang Seng 15%. Comme quoi, il n'y a pas juste les États-Unis sur la Terre, puis... ça a toujours été facile, puis on sentait là, ce désir des clients depuis quelque temps là, de vraiment, je veux un FNB américain, je veux des actions américaines, je veux plus de titres américains, comme quoi la diversification là, elle fait tout son sens quand on s'y attend le moins. Puis là, ben on se fait surprendre avec, bon, surprendre entre guillemets, là, pas tant que ça, par les tarifs. Et puis, tu sais, heureusement qu'on utilise beaucoup de fonds mondiaux plutôt que des fonds là, spécifiquement américains. Ça fait qu'il y a certains fonds qui performent quand même très bien dû à leur composante européenne depuis le début de l'année. Donc ça fait beaucoup de sens là, de garder ça. Au niveau de la devise, ben, le dollar canadien, on se souvient, le mois passé, là, ça avait touché les 67 points quelque chose. Là, on est resté 69,5. Là, comme, le marché a bien absorbé cette nouvelle-là. Et du côté des taux d'intérêt, ben encore là, ça fait le travail d'avoir un portefeuille avec une certaine composante en revenu fixe. Alors, même pour un investisseur dynamique qui a une tolérance au risque élevée, des fois d'avoir un 10-20% en revenu fixe quand les taux d'intérêt sont élevés et une tendance à la baisse, ça peut faire du sens. Depuis la semaine passée, ben, les taux d'intérêt sur les obligations du Canada 10 ans ont baissé de 0,1%. Donc, l'impact sur le prix de mon obligation 10 ans, ben, c'est à peu près une hausse de 1%. Ben, tu sais, pendant que le TSX perd 2,5%, mon obligation a monté de 1. Ben, tu sais, au moins, ça me donne, si je voulais là, vendre l'obligation puis acheter des actions, ça me permet d'amoindrir la baisse totale de mon portefeuille, mais aussi de me donner des munitions pour profiter d'une baisse du marché. On va donc surveiller, les tarifs sont en place. Là, combien de temps? Ça va-tu être un jour, une semaine, un mois, un an, 10 ans? Ben ça, on ne le sait pas. Donc, tu sais, ça ne donne rien de brusquer des gestes au portefeuille en présumant que ben ça, c'est la nouvelle réalité pour l'éternité. On sait qu'avec le président Trump, ça peut changer rapidement. Donc, restons collés sur nos cibles. Si on est un peu nerveux, ben réduisons légèrement la pondération en action, mais on ne parle pas de faire du tout ou rien ou de drastiquement réduire. On parle de peut-être un 5%, un 10% de moins en action, si ça peut vous permettre. Officiellement, ben, on devrait demeurer sur ses cibles à long terme, pas réagir à des nouvelles géopolitiques, mais vraiment se fier sur la qualité des gestionnaires des fonds communs qu'on détient, la qualité des équipes de gestion des entreprises qu'on détient, les laisser, eux, gérer leur business, puis nous, ben, investir dans ces bonnes business-là à long terme.
Et si on est inquiet, appelez nos conseillers.
Exact. On est là pour jouer parfois au psychologue, puis dans les périodes comme celle-ci, oui. Ben, c'est le temps où on fait ça. Petit bémol, petit aparté là, rapidement, pour ceux qui se demandent là, les limites de CELI. Je suis allé sur le site de l'Agence du revenu, moi-même, mon propre compte CELI n'est toujours pas à jour. Donc, faites attention, là, si vous vérifiez vos limites de droits CELI sur le site de l'Agence du revenu, vérifiez l'historique des transactions. S'il n'y a pas de transaction en 2024, c'est parce que le montant n'est pas à jour. Attendez encore quelques semaines.
Merci beaucoup, Martin, pour le rappel. Donc, le mois de mars est le mois de la prévention de la fraude. On en a parlé l'année dernière aussi, au même moment. Les Canadiens et Canadiennes ont perdu plus de 638 millions de dollars à cause de la fraude en 2024. C'est quand même beaucoup d'argent. Les pertes signalées au Centre antifraude du Canada depuis 2021 ont maintenant dépassé les 2 milliards de dollars. Malgré cette augmentation des pertes financières, le taux de signalement des fraudes reste quand même faible, hein? puisqu'on estime qu'il y a seulement 5 à 10 % des fraudes qui sont signalées. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons invité notre collègue Carl Lapointe-Legault, conseiller principal, conseil spécialisé en sécurité pour le mouvement Desjardins, pour venir nous parler de ce sujet. Donc, bonjour, Carl, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Ça me fait plaisir. Merci, Sarah. Merci, Martin. Je suis content d'être ici. Là. Comme tu l'as bien dit, c'est le mois de la prévention de la fraude et je suis bien heureux que tu soulignes le fait que c'est seulement, simplement, 5 à 10 % des cas de fraude qui sont signalés au Centre antifraude du Canada. Donc l'importance hein, de signaler ces situations-là pour avoir une réelle vue sur l'impact de la fraude au Canada.
Ben merci, Carl. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que pour nous, c'est vraiment une réalité, puis une réalité croissante parce que dans notre métier, nous avons fait face à des situations de fraude, malheureusement, auprès de notre clientèle. C'est difficile pour nos clients et pour nous aussi parce qu'on veut littéralement sauver nos clients et les protéger des fraudeurs. On n'y parvient pas toujours, par contre. Pour aider nos clients, est-ce que tu peux nous décrire les principaux stratagèmes de fraude que nos clients pourraient rencontrer?
Oui, j'en ai sélectionné quelques-uns qu'on voit très fréquemment là, dans les dernières, je dirais même dans les dernières années, mais principalement dans la dernière année. Là, le premier dont je pourrais parler, c'est l'arnaque du faux représentant. Puis je suis certain là, que même tout le monde en a déjà peut-être entendu parler. Ça a été excessivement médiatisé lors des derniers mois. Mais je crois que c'est nécessaire de revenir sur ce stratagème-là. C'est un stratagème qui touche principalement les personnes de plus de 65 ans, mais personne n'est à l'abri. Hein. Je pense qu'il y a une chose à retenir, c'est qu'on est tous, on peut tous être la cible d'une situation de fraude, peu importe le format qu'elle prend. Donc, l'arnaque du faux représentant, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est lorsque le fraudeur se fait passer pour un représentant d'une institution financière, donc par exemple, pour un représentant de Desjardins. Il va communiquer avec la personne, donc va la cibler, hein, va l'appeler pour lui faire croire qu'il y a un problème sur son compte. Donc, va lui faire, par exemple, croire qu'il y a une situation frauduleuse qui est arrivée, que son compte est entre les mains d'un malfaiteur, d'un fraudeur, et que pour sécuriser hein, son compte, pour éviter qu'il y ait des transactions supplémentaires qui soient faites par le fraudeur, il va inviter la personne à remettre ses accès, soit ses accès à son compte en ligne, ou encore directement sa carte d'accès avec son NIP, au fraudeur qui va se présenter au domicile de la personne. Donc, va se faire passer pour un représentant de l'institution financière ou encore pour un policier, là, et il va aller récupérer ces cartes-là. Souvent, ce qu'on me dit, puis je suis certain que vous vous posez la question, le Martin puis Sarah, c'est comment on fait pour nécessairement mordre à l'hameçon. Hein? Souvent, on se dit, ben ça semble être évident. On le sait que notre institution financière ne nous demandera pas de nous remettre nos cartes d'accès. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fraudeurs sont d'excellents manipulateurs. Donc, hein, quand on parle de crime organisé, il y a une organisation derrière ces stratagèmes-là. J'ai eu des gens là, qui m'en ont parlé directement de cas qu'ils ont vécu. Hein? Le fraudeur peut parfois les tenir là, au bout du fil pendant plus d'une heure en utilisant les bons mots, en utilisant le bon ton pour mettre le sentiment de pression de l'avant. Donc, c'est là où est-ce qu'il va jouer. Donc, il va vraiment nous mettre face à un sentiment d'urgence, de pression. Il va limiter notre capacité à réfléchir. Donc, il va nous faire agir de façon qu'on n'agirait pas normalement. Ça, c'est le premier stratagème dont je pourrais vous parler. Il y a plusieurs variantes. Hein. Parfois, on a même vu le fraudeur se déplacer jusqu'au domicile de la personne et accompagner la personne jusqu'à un guichet automatique pour l'inviter à faire des retraits. Donc, à ce moment-ci, la personne embarque, je dirais, dans la voiture avec le malfaiteur pour aller faire la transaction. Puis là, bien évidemment, nous, ce qu'on veut rappeler, hein, c'est les saines pratiques derrière. Comment faire pour se protéger par rapport à tout ça? Parce qu'il faut savoir, c'est que les fraudeurs ont également accès à des techniques qui leur permettent de modifier ce qui apparaît sur l'afficheur. Donc, c'est pas rare de voir, entre autres, le numéro de Desjardins ou le nom de notre institution financière qui apparaît sur l'afficheur, mais que c'est un fraudeur là, qui initie l'appel. Donc, le premier conseil que moi je donne dans ce cas-ci, c'est de jamais hein, se fier, de jamais faire confiance à ce qui se retrouve sur l'afficheur, parce que c'est très, très facile pour un fraudeur d'avoir accès à cette technique-là. Également, on tient à rappeler, jamais votre institution financière ne va vous appeler pour vous mettre face à une situation d'urgence comme celle-ci. Il est possible, on a des systèmes d'alerte qui vont vous demander, par exemple, est-ce que vous avez fait cette transaction-là? Est-ce que c'est vous qui avez initié la transaction? La seule chose que vous allez avoir à répondre à ce moment-ci, c'est oui ou non, c'est moi ou ce n'est pas moi qui ai fait la transaction. Jamais on va demander d'informations confidentielles lors d'un appel sortant. Et c'est important de le rappeler pour qu'on puisse aiguiser nos réflexes lorsqu'on reçoit ce type d'appel-là. Et évidemment, l'autre élément qu'on pourrait mettre de l'avant là, pour se protéger, c'est lorsqu'on reçoit cet appel-là et qu'on est face à un doute, hein, lorsqu'on a un doute derrière l'appel, ce que j'invite en fait les gens à faire, c'est simplement de demander le nom à la personne au bout du fil. On raccroche et on rappelle au numéro officiel. Et je souligne le fait de rappeler au numéro officiel. Par exemple, si c'est Desjardins, utilisez simplement le numéro derrière votre carte. Ils peuvent vous appeler, vous, pour en jaser s'ils ont une relation privilégiée avec des conseillers. Donc, de s'assurer d'appeler l'institution financière pour confirmer la demande. Donc ça, c'est le premier stratagème, l'arnaque du faux représentant, qui a connu une réelle augmentation lors des deux dernières années. Il n'y a pas, je dirais, une semaine où on n'en entend pas parler. Je vous ai parlé une ou deux variantes de ce stratagème-là, mais il faut savoir qu'il peut y en avoir pratiquement autant que du nombre de stratagèmes de fraude ou de cas de fraude qu'il y a. Un autre stratagème de fraude, si vous me permettez de vous partager, c'est... Et on en parle beaucoup également, c'est en lien avec l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on voit hein, de plus en plus, c'est les arnaques de type grands-parents. Ou même, j'aimerais dire aujourd'hui, de plus en plus des arnaques de type parenté ou ami. Hein. Donc, le fraudeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous appeler. Encore une fois, hein, il peut utiliser des techniques d'intelligence artificielle pour copier ou imiter la voix d'un de nos proches. C'est un stratagème qu'on voit très fréquemment. Encore une fois, c'est un stratagème d'arnaque téléphonique. Donc, le fraudeur va utiliser tout simplement la ligne filaire ou la ligne téléphonique pour entrer en communication avec sa potentielle victime et il va se faire passer pour un proche. Et encore une fois, comme dans tous les cas d'arnaque, il va avoir des raisons qui vont permettre au fraudeur de justifier une demande d'argent. Donc, il va être face à un problème, il va nous mettre de la pression. Là, on est face à une personne que l'on connaît, que l'on aime, donc on va réagir rapidement. Hein, on va éviter nécessairement de réfléchir. Ce qui rend ce stratagème-là plus complexe que ce qu'il l'était par le passé, c'est que de plus en plus, avec l'intelligence artificielle générative, bien, les fraudeurs ont les outils pour pouvoir imiter justement la voix de nos proches. Ce qui, en fait, pour se protéger de tout ça, là, moi, le truc ultime que de plus en plus les gens de l'industrie là, vont proposer, c'est tout très simple. Et je vous invite aussi, Sarah et Martin, à le mettre en application. Là. C'est simplement de se doter avec les membres de notre famille d'un code de passe, d'un mot de passe ou bien d'une phrase secrète. Donc, si jamais un appel comme celui-là arrive, parce que personne n'est à l'abri, hein, je le souligne, c'est simplement de lui demander « OK, mais c'est quoi notre mot de passe? » Donc, de cette façon-là, le fraudeur n'aura pas accès à cette information-là. Un autre truc, si jamais vous n'avez pas mis en place hein, un mot de passe au préalable, c'est de rappeler la personne. Même si la personne nous dit « j'ai pas accès à mon cellulaire, j'ai pas accès à mon téléphone, je suis à l'étranger en ce moment », rappelez la personne tout de même pour faire une validation, en fait, voir si elle est vraiment dans le pétrin ou encore un membre proche de la famille. Parce qu'il faut savoir que j'en ai vu plusieurs des cas comme celui-ci. On a fait des rencontres dans, entre autres, des résidences de personnes âgées où est-ce que des personnes ont été ciblées directement par des cas comme ceux-là. Ici, chez Desjardins, on entend des témoignages également de nos membres et clients par rapport à ce stratagème-là. Et souvent, ce qu'on me dit, c'est que les fraudeurs ont les bons mots. Ont les bons mots pour nous faire réagir. Puis quand on est là à froid, on parle entre nous, on se dit, ben, ça devrait être facile, simple à détecter. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est encore une fois, on ne sait pas dans quel contexte la personne nous a appelé, comment je me sentais au moment où j'ai reçu l'appel. Des fois, on est pressé, on veut faire rapidement, on reçoit cet appel-là, on ne réfléchit pas tout à fait comme on voudrait. Le conseil que je donne également, c'est face à l'urgence, peu importe sous quelle forme, se donner le droit d'appuyer sur le frein et de faire des vérifications. Ce 5 minutes-là, ce 3-4 minutes-là là, qu'on va prendre pour nous peut peut-être nous éviter des pertes financières importante.
Puis, est-ce que tu as-tu d'autres cas vécus qu'on a croisés chez Desjardins puis auxquels tu as été impliqué?
Oui, puis un cas vécu aussi, je pense, qui pourrait vous intéresser, c'est en lien avec les arnaques ou les fraudes de type investissement. Mmh. Ce qu'on remarque beaucoup, hein, c'est que il y a de plus en plus des publications, on va le dire, sur les réseaux sociaux ou des publications qui vont se servir, je dirais, de ce qui se passe dans l'actualité. Tu vois, on le parlait avec tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, les tarifs, etc. Donc, ça incite aussi les fraudeurs à utiliser ces méthodes-là pour bonifier, je dirais, leur stratagème. Donc, souvent, ce qu'on voit, et que, par exemple, j'ai un cas en tête, là, c'est des gens qui ont malheureusement été incités à... qui sont tombés, je dirais, sur cette publication-là ou sur ces publications-là sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on les invitait à investir dans de la crypto-monnaie, par exemple. Donc, on en a vu souvent, hein, ça semble complètement véridique lorsqu'on arrive sur la plateforme de crypto-monnaie. Souvent, c'est une plateforme créée de toutes pièces là, qui va être utilisée et les fonds ne seront pas, évidemment, déposés dans un compte qui est géré par... l'individu, donc, va être géré par le fraudeur. Comme vous savez, il est possible et c'est très difficile même d'aller récupérer ces sommes d'argent-là une fois qu'elles sont investies. Donc, ça, c'est des stratagèmes que l'on voit souvent et parfois, c'est très complexe et ça peut être long même avant de réaliser qu'on est victime d'un stratagème d'arnaque à l'investissement. Il y a plusieurs autres formes aussi que prend ce stratagème-là, hein, parce qu'on a des fraudeurs qui vont entrer en communication avec nous directement, encore une fois, par les réseaux sociaux ou via il va se faire passer pour l'ami d'un ami ou la connaissance d'un ami, il va nous recommander des investissements faramineux, là, sans aucun risque. Hein. On sait que ça n'existe pas, là, sans aucun risque et avoir des retours à ce point-là. C'est des stratagèmes que l'on voit beaucoup et je trouve ça important de le souligner parce qu'on le voit fréquemment chez Desjardins, des stratagèmes de ce type-là, d'arnaque à l'investissement et partout dans l'industrie. Hein. C'est des cas qui sont très, très, très forts là, de ce temps-ci. Et tu le dis, Sarah, en entrée de jeu, hein, des montants extrême perdu en lien avec la fraude. Mais il faut savoir que le stratagème d'arnaque à l'investissement en 2024, c'est plus de 300 millions de dollars là, qui a été perdu au Canada uniquement. Et c'est le stratagème de fraude qui a coûté le plus cher aux Canadiens et Canadiennes pour l'année 2024.
Ben merci beaucoup. Hein. Carl, t'avais-tu une autre question, ben, Martin?
Juste d'un point de vue psychologique, là, il y a deux ficelles qu'on peut tirer si on veut vraiment manipuler quelqu'un. C'est la peur et l'avarice. Donc, exact. On sait que les fraudeurs vont vraiment travailler très fort là-dessus. Puis l'être humain est très fragile et sensible à ces deux ficelles-là.
Fait que ben, soyez prudents. La réalité, c'est que dans les derniers mois, on a vu des cas comme ça.
Yeah.
Dans notre entourage, on a entendu des histoires de clients et ça peut arriver à n'importe qui. Donc, merci beaucoup, Carl. Je vous laisse avec une citation aujourd'hui. La fraude peut toucher n'importe qui, n'importe où, et n'importe quand. Certaines victimes peuvent se sentir impuissantes, isolées ou même gênées. Mais sachez que si vous avez été pris pour ce cible, vous n'êtes pas seul. Signaler l'incident est le meilleur moyen de contribuer à la lutte contre les fraudeurs et peut aider quelqu'un d'autre à ne pas devenir une victime. Et ça, c'est Chris Lynam, directeur général du Centre antifraude du Canada et du Centre national de coordination en cybercriminalité de la GRC qui dit ça. Et il faut se rappeler de ça.
Ouais.
Ça arrive pas juste à les gens vulnérables. On a parlé avec quelqu'un l'autre jour, une dame d'environ notre âge. Même scénario, Carl, que tu as parlé, elle était occupée, elle a reçu l'appel. Vite, vite, c'est arrivé. Donc, il ne faut pas se sentir gêné, il faut en parler. Et appelez-nous, Martin et moi, on est là pour vous épauler. Donc, merci beaucoup. Pour tous nos clients et partenaires, Mathieu, Michel, Martin et moi, sommes disponibles pour vous pour discuter de vos besoins, vos questions et vos objectifs financiers personnels. Communiquer avec nous. Merci pour notre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.